Doux chemin. En entrant dans la pièce un peu plus tôt, Suzanne avait caressé le chat en lui chuchotant quelques paroles douces en anglais. Celui-ci avait miaulé de plaisir en se trémoussant sous sa main. Gaëlle, prévenante, s'assurait que chacun trouve son bonheur sur la table. La vieille dame buvait son thé au lait par petites gorgées et se contentait d'une fine tranche de pain. Cela suffisait à son organisme frêle et délicat jusqu'au déjeuner. Concernant Édouard, la maîtresse des lieux avait prévu large, supposant qu'une telle carrure appelait une alimentation conséquente. Pourtant, il n'avait presque rien touché. Elle mit ce manque d'appétit sur le compte de sa situation inconfortable. Il avait quand même fini par avaler une tartine de pain complet, sur laquelle il avait étalé une noisette de beurre salé et quelques regrets du passé. Le nom du hameau vient donc de ce fameux chemin dont tu me parlais tout à l'heure et que je devrais emprunter ? Demanda-t-il à Gaëlle. Un petit sourire éclaira le visage de Suzanne. Elle écouta, pour la énième fois, l'explication des origines de ce nom. Elle ne s'en lassait pas. La clairière du village reliait à une autre clairière par un chemin qui partait vers l'est, à 200 mètres de la maison de Gaëlle. Un chemin bordé de vieux arbres formant un tunnel, dont la voûte était constituée de branches tordues et enchevêtrées, ne laissant passer la lumière qu'au creux de l'hiver, quand plus aucune feuille n'avait résisté au couperet de l'automne. Ainsi, cette allée toujours humide était couverte de mousse, comme un tapis vert, qu'une entité supérieure aurait déroulé là pour mener avec solennité les visiteurs jusqu'au tilleul multicentenaire qui régnait sur la deuxième clairière. Un chemin, long d'une bonne centaine de mètres, qu'il fallait avoir emprunté pieds nus au moins une fois dans sa vie pour faire goûter à ses voûtes plantaires et par capillarité vibratoire au reste du corps l'exceptionnelle sensualité que la nature pouvait offrir à l'homme. « Suzanne, l'avez-vous déjà fait ?» demanda Édouard en terminant son café. L'air amusé de l'anglaise renvoya l'homme au ridicule de la question. « Oui. » Elle réitérait cette pratique chaque automne. Elle y puisait l'énergie suffisante pour tenir jusqu'à l'année suivante. Édouard peinait à imaginer la vieille dame tirée à quatre épingles réaliser cette expérience. Quelle tenue pouvait-elle bien enfiler pour aller se perdre dans la nature sauvage ? Il vaut mieux l'arpenter au petit matin, précisa Gaëlle, pour profiter de la rosée. Suzanne regagna sa chambre pour, dit-elle, quelques petits étirements avant une longue séance d'écriture. Édouard la trouvait débordante d'énergie. Au crépuscule de son existence, elle semblait aspirer à une nouvelle aube. Intrigué par les vertus du doux chemin, il n'en fit cependant pas une priorité. De n'avoir plus marché pieds nus dans la nature depuis un nombre incalculable d'années, il craignait de se blesser ou de se faire piquer par un insecte. Les écureuils, les pouvoirs de la mousse, toutes ses croyances étaient si éloignées de ses préoccupations citadines et pragmatiques. Garder ses mains dans ses poches pour ne pas se faire voler une nouvelle fois son téléphone dans le métro, arriver à l'heure au travail malgré les pannes et incidents de voyageurs, trouver le parcours le plus fluide en voiture pour quitter la capitale le week-end. Il décida de reporter l'expérience à un autre jour. Une nouvelle rosée serait au rendez-vous. Il avait d'autres préoccupations en tête. L'urgence de ce premier matin consistait à prévenir son supérieur qu'il prolongeait ses vacances de quelques jours à la suite d'un contretemps. Pour lui qui était chef d'équipe ingénieur à la SNCF, les imprévus professionnels, nombreux et réguliers, ajoutaient sans cesse des jours de récupération qu'il n'arrivait jamais à écouler et qui finissaient par être perdus. Enfin, il osait les revendiquer, poser ses conditions, frôler l'idée de rébellion. En raccrochant, il se surprit lui-même d'avoir réussi à tenir tête à son interlocuteur. Il craignait désormais les conséquences dès son retour. L'institution faisait payer les réfractaires. Il comptait sur une balade au soleil pour dissiper l'ombre de ses pensées et découvrir les alentours immédiats. Après avoir déposé son téléphone dans le casier qui lui était destiné, plus par amusement que par conviction, bien décidé à prouver à Gaëlle qu'il pouvait aisément s'en passer, il s'avança vers ce gros chat poilu qui avait failli le faire tomber en entrant et qui reposait sur un coussin devant la fenêtre, sous la chaleur des premiers rayons. Allongée en croissant de lune, la tête droite et les yeux fermés, il en ouvrait un de temps en temps pour vérifier qu'aucun danger ne le menaçait, puis le refermait aussitôt. Quand Édouard s'approcha, l'animal se redressa et s'étira en grognant. L'homme ne sut analyser son attitude. Il ignorait le langage des chats. Il ne les avait jamais vraiment aimés et il le lui rendait bien. L'aura de celui-ci attirait cependant les gens vers lui. Suzanne, les clients, Adèle, chacun y allait de sa petite caresse. Même Édouard, malgré la peur. Le souvenir d'enfance d'une sale blessure refaisait surface quand il croisait l'un de ses félins. Le chat se laissa câliner et se mit à ronronner. Édouard n'avait jamais goûté à une sensation si intense et il fut surpris par l'effet apaisant des vibrations animales sur son organisme. Arrivé au milieu de la cour, il se retourna. Le chat le regardait à travers la vitre, en soulevant sa queue à un rythme régulier. Édouard se sentit presque suspect. Il entreprit de vagabonder dans le hameau à la découverte des lieux, des habitants pour les saluer. Il aperçut, en retrait de la route, une masse sombre s'agiter dans l'herbe. En s'approchant, il constata qu'une tortue était tombée sur le dos et essayait désespérément de se remettre d'aplomb pour poursuivre sa route. Elle brassait l'air en faisant tournoyer ses pattes, tentait de trouver un appui pour basculer. Il la saisit délicatement de part et d'autre de sa carapace en prenant garde à ses griffes qui s'agitaient de façon désordonnée. Il la souleva tout en la retournant. Ce ne fut pas une entreprise aisée. Elle mit quelques instants à se stabiliser sur ses pattes, puis repartit dans l'herbe d'un pas nonchalant. Édouard remarqua ensuite le vieux voisin qui les avait salués la veille à leur arrivée. Il binait son jardin, presque plié en deux, d'un geste ferme et précis. Le retraité se redressa à son approche et s'appuya sur son outil, tel un cantonnier de bord de route qui prend une pause bien méritée.
Elle était encore retournée ?
Qui ? Demanda Édouard, étonné par cette entrée en matière.
Viviane, la tortue. Vous l'avez retournée. Avec l'herbe haute d'ici, je ne pouvais pas voir qu'elle était dans cette mauvaise posture.
Ça doit encore être Platon.
Platon. Le chat de Gaël. On a beau le crier, il continue. Un petit coup de patte et hop, il est content de son coup. Le poicre. Et il l'abandonne en se disant que quelqu'un passera bien par là pour la remettre sur ses pieds.
Les animaux d'ici portent des noms étranges.
Mon cheval s'appelle Perceval. C'est drôle, non ?
Je m'appelle Édouard.
C'est moins drôle, comme qui dit. Moi, c'est Raymond.
T'es en vacances ? En quelque sorte.
T'es arrivé avec cette chère Suzanne ? Tu la connais ?
Édouard dut avouer que non, ce qui rappela à sa conscience l'incongruité de son arrivée. Il évoqua le concours de circonstances et la durée incertaine de son séjour. Puis il demanda au vieil homme s'il connaissait bien la forêt, sa légende, s'il croyait à la magie qu'on lui prêtait.
« C'est en nous qu'est la magie. Les arbres sont juste un moyen de nous la montrer. Pour d'autres, ce sera la mer ou la montagne. »
« Et votre magie à vous, elle est ici ?» Raymond planta son outil d'un coup sec dans la plate-bande et cogna ses sabots contre un caillou pour détacher le plus gros de la terre encore lourde de l'orage passé, avant d'emprunter une petite allée pavée jusqu'au vieux muret au bord du chemin. Arrivé à la hauteur d'Édouard, il lui serra la main d'une poigne ferme, rugueuse et humide.
« Ma magie à moi, elle est là, dans les légumes, dans la forêt autour, dans mon atelier, dans mes voisins, et dans le temps qui passe et qui pense à me réveiller chaque matin. Elle est dans le fait de sentir que ça sonne juste au fond de moi. Et la tienne, c'est où qu'elle sonne juste ? »
Ce vieil homme, qui semblait inoffensif, venait de frapper un grand coup de glaive dans le bouclier qu'Édouard se forgeait depuis des années pour se protéger de sa propre réalité. Elle était où, sa magie ? Elle était où depuis 30 ans? Pas à Paris, ni dans son travail, encore moins dans le regard de sa femme. Existait-elle encore? À vrai dire, je ne suis pas sûr d'en avoir au fond de moi.
Calambre d'Aisne, tout le monde en a. Certains oublient en posant plein de bazar dessus, comme là-bas,
dit-il en montrant du doigt un amas de poutres, de tôles et de vieilles pierres effondrées d'un mur chez le voisin.
À première vue, tu vois juste des trucs sans intérêt, mais en dessous, qui te dit qu'il n'y a pas un nid de petits hérissons ou une plante sauvage rare qui ne pousse que dans des endroits humides et sombres et que les druides du coin cherchent désespérément, hein?
Édouard eut peur des réponses qu'il était venu chercher. Il savait à quoi ressemblait sa magie. Il voyait tous ces morceaux de planches, de parpaings, de bouts de tout et de rien qu'il avait entassés au fil des années pour mieux la dissimuler et essayer d'oublier qu'elle agonisait. Il erra des heures durant autour de la maison. Il respirait à peine, se sentait lourd et plein de rien. Il n'avait même pas pensé à rentrer pour le déjeuner. Gaëlle lui avait offert la veille de se sentir libre de toute contrainte à leur égard. Elle s'adaptait toujours, un couvert en plus ou en moins. Libre de toute contrainte. Plusieurs fois, il avait cherché machinalement son téléphone dans sa poche pour vérifier d'éventuels appels ou messages, oubliant le petit défi qu'il s'était lancé. Plusieurs fois, il se sentit idiot, témoin direct de sa propre addiction, de son corps et de ses automatismes qui échappaient à sa conscience. Un robot qui voulait s'affranchir, libre de toute contrainte. Toutes ces années, il avait fait en sorte d'être joignable à tout moment. Si cela se justifiait durant l'enfance de Pauline, l'importance d'être accessible avait perdu en intensité. Il la savait autonome et indépendante, entourée de bons amis. Il comprit qu'il s'était enfermé dans ce principe intangible pour sa femme. Il se rendait disponible pour qu'elle lui fiche la paix. Du reste, elle ne lui laissait pas le choix. Qu'il ne réponde pas ou qu'il ne rappelle pas dans la demi-heure et elle lui reprochait de ne pas être prévenant, de ne pas penser à elle, de ne pas l'aimer. Ainsi, il décrochait, acquiesçait à ses dires sans lâcher des yeux son ordinateur et répondait machinalement. Armelle peinait à décider seule, tergiversait en permanence, s'en remettait à lui pour nombre de décisions du quotidien. Le principe même du choix l'angoissait. « La nouvelle bouilloire, je la prends en rouge ou en bleu ?»« En rouge », s'entendait-il répondre sans avoir réfléchi un instant, se fichant bien de la couleur de l'objet. Il en était ainsi pour tout. Les cartes de restaurant, summum du calvaire, la faisaient opter pour le même menu que son mari. Édouard renonçait parfois à des plats dont il raffolait, sachant qu'elle ne les apprécierait pas. Exit les fruits de mer, le foie gras, les plats en sauce et le riz de veau. Il était pris au piège d'un fonctionnement tacite accepté il y a bien longtemps. À y réfléchir, dès le début de leur relation. Tout s'était construit sur cette dépendance et, si cela l'avait flatté un temps, lui donnant de l'importance, voire un côté indispensable, il comprit alors à quel point il s'y sentait désormais prisonnier. Assis sur un tronc mort, il se noyait dans ses pensées, sombrait, refaisait surface, sombrait à nouveau. Il comprenait, dans un cruel constat, quel élément, de l'air ou de l'eau, constituait sa vie de couple. Il ignorait cependant le temps qu'il lui faudrait pour trouver une zone où il avait pied. Pour l'instant, l'urgence était de trouver l'air.